Bonjour et bienvenue sur Radio Évasion. Nous vous partageons ici une lecture du livre « Comment la police interroge et comment s'en défendre », écrit et publié par le projet Évasion. Le livre est découpé en 6 chapitres, il y a donc 6 épisodes. Pour une meilleure compréhension, nous vous conseillons de les écouter dans l'ordre. Le livre n'est plus en stock chez nous, mais une version PDF est disponible librement sur notre site www.projet-evasion.org. Pour nous contacter, vous pouvez nous écrire à evasion@riseup.net, evasion E-V-A-S-I-O-N-S, @riseup.net, R-I-S-E-U-P.net. Un grand merci pour l'enregistrement et bonne écoute.
Autour de l'interrogatoire. Ce chapitre examine différents éléments ayant une influence directe sur l'interrogatoire. Chapitre 8. Le procès-verbal.
Lors de chaque interrogatoire, un procès-verbal est rédigé par la police. C'est le document qui va être ajouté dans le dossier d'enquête et à travers lequel est transmis le contenu de l'interrogatoire. Les interactions entre la personne interrogée et les inspecteurs-inspectrices seront synthétisées en temps réel au fur et à mesure de l'interrogatoire et retranscrites par écrit. Lorsque les interrogatoires sont menés par deux enquêteurs-enquêtrices, le procès-verbal est pris par l'une pendant que l'autre pose la grande majorité des questions. Le procès-verbal transcrit la durée de l'interrogatoire, les questions-réponses, les interventions de l'avocat-avocate, la communication non-verbale, bégaiement, crispation, mutisme, hochement de la tête, et l'attitude de la personne interrogée, énervement, pleurs, phase émotionnelle. À la fin de l'interrogatoire, le procès-verbal imprimé est soumis à la personne interrogée pour d'éventuelles corrections. Si une interprète est présente, le procès-verbal est traduit oralement. Les policiers et policières font ensuite signer le document page par page ou uniquement une fois à la fin du document, cela dépend des pays. À toutes les personnes présentes, inspecteurs, inspectrices, avocats, avocates, suspects, suspectes, traducteurs, traductrices. Signer le procès-verbal revient à valider l'interrogatoire et tout son contenu. Personnellement, je ne vois aucun intérêt à signer ce document et déconseille de le faire. Dans le cas où tu n'as fait aucune déclaration, tu n'as rien à gagner en le signant, et de plus, tu restes cohérente avec la stratégie du refus de collaborer. Si procès il y a, cela ne fait aucune différence d'avoir refusé de signer un procès-verbal vide. Si tu t'es fait piéger par l'une ou l'autre des stratégies d'interrogation de la police et que tu as fait des déclarations, tu t'enfonces encore un peu plus en signant le procès-verbal. Cela revient à valider tes déclarations et rend encore plus difficile toute rétractation future. Ne pas avoir signé un procès-verbal est une condition nécessaire pour pouvoir contester plus tard ce qui y est écrit. Le fait de ne pas collaborer avec la police, pas de déclaration, pas de signature, t'offre toutes les chances de pouvoir réfléchir à la meilleure stratégie de défense pour le procès à venir sans être pénalisé toi-même au préalable. C'est une règle générale à appliquer à tout échange avec les forces de l'ordre. La prise de risque la plus minime se trouve dans le fait de ne pas collaborer, de ne pas aller dans le sens voulu par les policiers et policières. Chaque pas que tu fais en direction de la police augmente la mise en danger à laquelle tu t'exposes sans te donner aucun avantage en contrepartie. Parole de flic. La manière dont on prend une audition, c'est déjà faire pression. Si on ne respecte pas la parole de la personne quand on écrit, on fait pression parce que est-ce que cette personne aura les couilles de s'en plaindre au policier devant elle, de dire « ce que vous écrivez là, c'est pas ce que j'ai dit ». Il faut les épaules pour oser affronter un policier. L'autorité là-devant, vous qui sait ce qu'il fait.
Chapitre 9. Communication non-verbale.
Lorsque nous communiquons de manière verbale, notre corps réagit aux émotions activées en fonction des thématiques abordées. Cela se traduit notamment à travers les mimiques, l'attitude, les gestes, le regard, le ton et le rythme de la voix. C'est ce que l'on appelle la communication non-verbale. Le fait que tu tripotes nerveusement ton stylo ou que tu croises les bras ne sera pas nécessairement interprété comme un signe de mensonge, mais pourra indiquer une thématique sensible. Dans un interrogatoire, une forte asymétrie émotionnelle est présente entre toi et les inspecteurs-inspectrices. Pour eux, elles, il s'agit d'un moment banal, de leur travail quotidien. C'est de l'ordre de la routine. Ils, elles, ont une grande expérience de ce genre de situation, basée sur les formations reçues et sur une pratique courante. Même si tu as déjà vécu quelques expériences d'interrogatoire, ton état émotionnel sera toujours plus intense que celui des policiers et policières en face de toi. Ton cœur battra plus vite, ta respiration sera plus rapide, ta concentration plus haute et tes sens plus vifs. Les enjeux ne sont simplement pas les mêmes pour des personnes qui font leur travail quotidien et pour toi qui risques de voir ton avenir impacté par la manière dont se déroule ce moment. Il est possible d'apprendre à maîtriser en partie la manière dont notre corps transmet notre état émotionnel. C'est néanmoins un exercice très ardu qui demande une extrême concentration et une maîtrise de soi difficile à maintenir dans des conditions d'interrogatoire. À travers notre détention, la police dispose d'un large panel de moyens pour nous affaiblir psychiquement et physiquement. Perturbation de notre cycle de sommeil, intimidation, isolement, manque de nourriture, etc. Les policiers-policières portent leur attention sur ton langage non-verbal, mais aussi sur sa potentielle dissimulation. Lorsqu'une idée et un ressenti se forment dans notre cerveau, le corps communique plus rapidement l'émotion liée que la formulation des phrases. Si une personne montre de la tristesse, mais que l'expression corporelle de tristesse survient après la phrase en rapport, il y a fort à parier que cette émotion est jouée. Certaines inspecteurs-inspectrices peuvent essayer de t'influencer avec leur propre langage corporel. Par exemple, lors de la stratégie de la contagion émotionnelle, où les policiers-policières tentent de te pousser dans une émotion précise grâce à leur propre émotion affichée. Dans ce cadre, une inspecteur-inspectrice voulant avoir l'air en colère jouera aussi sur le comportement non-verbal adapté pour que tu croies que son émotion est authentique. Volume de la voix et rythme de parole élevé, mains crispées, rougeur au visage, etc. Ci-dessous sont listés les principaux signes corporels auxquels la police porte attention afin d'y chercher des indications sur ton état émotionnel. Mains crispées, grattement, dissimulé, micro-geste, tremblement. Parole, ton de la voix, volume, rythme, intonation, bégayer, tousser, se racler la gorge, déglutir, gorge sèche, rire. Corps, tonicité musculaire, tremblement, rougeur, sueur. Respiration, soupir, rythme, saccade, profondeur. Regard, présence ou absence du regard. Nuance, larmes, direction du regard. Rythme cardiaque. Cette liste est tirée du livre de Ekman P. Je sais que vous montez. Michel Lafon, Paris 2010. Je recommande la lecture de cet ouvrage pour toute personne cherchant à mieux maîtriser son langage non-verbal.
Chapitre 10. Les interprètes.
Lorsque la personne interrogée ne parle pas la ou les langues officielles du pays où elles se trouvent, les policiers-policières font appel à un ou une interprète. Dans les pays comme la Suisse ou la Belgique, qui ont plusieurs langues officielles, tu peux exiger que l'interrogatoire soit mené dans ta langue maternelle, si elle fait partie des langues officielles, même si tu te trouves dans une autre partie linguistique du pays. Bien que ne faisant pas partie des services de police, les interprètes ne sont pas pour autant tes amis ou alliés. Elles sont ce que la police nomme des collaborateurs-collaboratrices externes. Dans un environnement hostile, une personne qui n'est pas de la police et qui parle ta langue maternelle peut donner une impression de proximité. Pourtant, les interprètes à qui tu as affaire sont choisis et vérifiés par la police et sont amenés à collaborer régulièrement avec eux et elles. Attention à ne pas reproduire le phénomène de bouée de sauvetage avec l'interprète présente. Si tu partages les mêmes origines sociales que l'interprète, il est possible que les inspecteurs-inspectrices lui demandent des informations d'arrière-fond culturel et politique sur tes origines.
Beaucoup des stratégies d'interrogatoire nécessitent que les policiers-policières aient un contact direct avec toi. L'avantage de la présence d'un ou d'une interprète est son effet de tampon entre la personne interrogée et les inspecteurs-inspectrices. Afin de minimiser cet effet, l'interprète est souvent assise derrière les enquêteurs-enquêtrices qui te parlent, alors directement en te regardant toi plutôt que l'interprète. Néanmoins, dans leurs propres écrits, les policiers et policières sont conscientes que des stratégies telles que l'effet de récence ou humaniser la relation police-suspecte seront plus difficiles à mettre en place. Avec ou sans interprète, le silence reste ta meilleure stratégie de défense face à la police. La présence d'un ou d'une interprète peut néanmoins être plutôt positive pour toi. Elle permet de comprendre les questions de la police ainsi que le contexte dans lequel tu te trouves et elle pénalise les policiers-policières dans l'utilisation d'effets de manipulation liés au sens exact des mots, de la construction des phrases et des intonations qui ne seront pas retransmis de manière identique lors de la traduction.
Chapitre 11. Les avocats, avocates.
Le moment à partir duquel tu pourrais être mise en contact avec un ou une avocate change selon le pays où tu te trouves et selon la pratique policière. Dans certains endroits, comme en Suisse, tu peux demander un ou une avocate dès le premier contact avec la police, dans d'autres seulement lorsque tu es placé en détention préventive et qu'une instruction est officiellement ouverte contre toi. Parfois, lorsque tu demandes d'avoir un ou une avocate, les policiers et policières tentent de t'en dissuader en t'expliquant que cela peut prendre du temps et que jusque-là, tu resteras enfermé dans leurs locaux alors que sans avocate, l'affaire serait rapidement réglée. L'idéal est que tu sois déjà en contact avec des avocates que tu connais et qui sont prêtes à te défendre. Si ce n'est pas le cas, tu seras mise en contact avec un ou une avocate commis d'office. Il est aussi possible que tu ne ressentes pas le besoin de te faire accompagner par un ou une avocate lors des interrogatoires de police et que tu réserves cela pour le procès. Quoi qu'il en soit, la présence d'un ou une avocate représente souvent un agréable tampon face à la police et à leurs stratégies les plus agressives. La pratique du bon flic méchant flic n'aura pas le même impact émotionnel avec la présence rassurante de ton avocat-avocate. Pour atténuer cet effet de protection, l'avocate est d'ailleurs souvent placée derrière toi. De même, les policiers et policières seront beaucoup plus réticentes à spéculer sur les moyens de preuve ou les peines que tu encours si l'avocate pourra, en connaissance de cause, les contredire et ainsi les décrédibiliser. La présence d'un ou une avocate peut aussi amener certains dangers. Il existe autant de bons, bonnes que de mauvaises avocates. Elle est pourtant la seule personne à être à tes côtés lors de toute la procédure judiciaire. C'est une personne qui est censée te représenter et te défendre, prendre ton parti. Cette attente peut créer un effet de bouée de sauvetage qui peut se retourner contre toi lorsque ton avocat, avocate, est de mauvais conseil. Il arrive en effet que l'avocate te conseille de répondre à certaines questions de la police ou de faire des déclarations sur tes complices pour te décharger. L'avocate n'a aucune autorité lors d'un interrogatoire et n'est pas un rempart face aux inspecteurs-inspectrices. Il n'est pas possible de se dérober au piège tendu en se cachant derrière lui ou elle. Si tu fais des erreurs en entrant dans la dynamique des questions-réponses, ton avocate n'a pas la possibilité de t'en extraire. Ses interventions, tout comme vos échanges, sont enregistrées dans le procès-verbal. A contrario, avoir un ou une bonne avocate à tes côtés peut amener beaucoup de positifs dans une procédure judiciaire.
1. Une présence humaine non hostile. 2. Un potentiel lien avec tes proches à l'extérieur. 3. Une influence sur les conditions de détention. Pouvoir faire des appels, recevoir et envoyer du courrier, etc. 4. Une aide dans la paperasse administrative propre à la détention. Faire des demandes de libération avant le procès, des recours contre des décisions de détention, des réquisitions de preuves, des demandes de témoins, demander accès au dossier d'enquête, etc. 5.
Une aide pour se préparer au procès et élaborer des stratégies de défense.
Parole de flic. Dans la majorité des cas, le pire ennemi de l'avocat, c'est son client. Donc souvent, l'avocat, il va un peu dans notre sens. Ou s'il conseille bien son client, il lui dit qu'à ce stade, il vaut mieux dire des choses plutôt que de raconter des salades.
Chapitre 12. Audition de témoins.
Les auditions de témoins ont ceci de particulier qu'elles s'inscrivent dans un autre cadre juridique. Lors d'un interrogatoire, c'est en tant que prévenu que tu es appelé à te prononcer sur une affaire qui te concerne. En plus d'être légitime à te taire, tu en as le droit juridique. En tant que témoin, tu es uniquement appelé pour faire des déclarations sur autrui et sur une affaire pour laquelle tu n'es pas directement concerné ou en tout cas pas suspecté. Par contre, dans la majorité des pays, tu as l'obligation légale de t'exprimer. Si tu refuses ou s'il peut être prouvé que tu mens, tu t'exposes dans la majorité des cas à une amende. Dans certains cas graves, tu peux être inculpé de complicité. Il arrive que des enquêtes soient ouvertes sur des témoins après leur déclaration devant la police, le tribunal, suite à des informations données qui se sont retournées contre elles et eux. Ici aussi, il est dangereux d'essayer de mentir et cela peut se retourner contre toi. Et si la loi t'interdit de refuser de répondre, aucune juridiction ne t'oblige à te soutenir et personne n'a d'emprise sur ta mémoire. La réponse « je ne me souviens plus » est une bonne esquive permettant de ne pas te mettre en danger ni de révéler des informations qui pourront servir à condamner autrui.
Chapitre 13. Garde à vue et détention préventive.
Parole de flic. Après, un mec qui est casse-couille, qui te fait chier, qui est con, c'est clair qu'il va pas fumer. Mais je suis pas obligé de le faire fumer, la différence elle est là. Après, à l'inverse, un mec qui est coopératif, il va fumer. Un interrogatoire peut se faire sur convocation écrite de la police. Il est également possible que tu sois déjà en détention au moment d'être interrogé. Il existe deux types de situations de détention. La garde à vue. Il s'agit d'une détention dans les locaux de la police de quelques heures, voire quelques jours. Les lois varient entre les pays. C'est le cas lorsque tu es arrêté en flagrant délit ou lors de manifestations. En règle générale, la police te garde le temps de faire un ou plusieurs interrogatoires, de clarifier un peu la situation et la direction que prendra l'enquête. La détention peut se prolonger lorsqu'elle est utilisée comme moyen de pression ou de déstabilisation pour te rendre plus vulnérable aux interrogatoires. Elle se termine soit lorsque les policiers-policières te rendent la liberté, soit lorsqu'un ou une procureur, ou juge selon le cadre légal du pays où tu te trouves, prononce ton maintien en détention préventive jusqu'à la tenue du procès. Après ta garde à vue, l'enquête se poursuit et il est possible que tu reçoives une convocation pour un nouvel interrogatoire. La détention préventive. Lorsqu'un ou une procureur ou juge décide que tu ne peux pas être relâché avant ton procès, tu es placé en détention préventive. Les justifications pour une telle prolongation sont d'éviter le risque que tu disparaisses dans la nature pour échapper à ta condamnation, d'empêcher un contact entre co-accusés, de t'empêcher de faire disparaître des preuves ou de nuire à l'enquête en cours. La détention préventive ne se fait normalement pas dans les locaux de police, mais dans une prison. Le temps que tu vas passer en détention va être sensiblement plus long qu'en garde à vue. Là aussi, la durée et les conditions de détention sont utilisées comme moyen de pression et d'affaiblissement de ta résistance aux interrogatoires. Pendant ta détention, l'enquête se poursuit et tu peux être interrogé de nombreuses fois avant ton procès. Une fois l'enquête terminée, tu peux avoir accès à ton dossier d'enquête en vue de te préparer au procès, depuis la prison, accompagné d'un ou une avocate ou non. La détention provisoire prend fin soit directement lors du procès, soit avant, auquel cas tu seras remis en liberté jusqu'à ton procès. En cas de condamnation, le temps que tu as déjà passé en détention provisoire te sera compté, et en cas d'acquittement, il est parfois possible de te faire indemniser. Plusieurs stratégies d'interrogatoire se construisent sur la fragilisation qu'entraîne la privation de liberté. Dans ces deux situations, tu es enfermé dans une cellule avant et après les interrogatoires. Des inconnus en uniforme viennent te chercher, pour t'amener dans le bureau où a lieu l'interrogatoire. Il est important de comprendre ce processus d'enfermement comme accompagnant les interrogatoires et l'enquête en cours. Plusieurs stratégies d'interrogatoire se construisent sur la fragilisation qu'entraîne la privation de liberté. Un des objectifs de l'enfermement est de t'affaiblir physiquement et psychiquement afin de nuire à tes capacités mentales et réduire tes chances de te défendre face à un interrogatoire. Je présente ici un aperçu assez bref des différents mécanismes à l'œuvre. Perte de contrôle sur son emploi du temps. Dès le tout premier instant où tu te trouves entre les mains de la police, tu ne disposes plus librement de ton temps. On te porte tes repas, on t'amène dans la salle d'interrogatoire, on te sort pour la promenade, peu importe que cela te convienne ou non. Certaines cellules, surtout en garde à vue, ne possèdent pas de toilettes et la lumière s'allume et s'éteint depuis l'extérieur, ce qui réduit encore un peu plus ton pouvoir de décision et ton emprise sur ce qui t'entoure. Que tu sois en train de dormir, de lire, d'écrire ou de faire du sport, à tout moment, ton programme peut être interrompu. Cela peut faire naître un sentiment de dépossession de ta capacité de détermination. Si ce sentiment s'installe en toi et persiste lors des interrogatoires, il va nettement entamer ta capacité à résister face aux inspecteurs-inspectrices. Isolement. La solitude et l'isolement social qui résultent d'une période d'emprisonnement peuvent également être très déroutants. Lorsque, après une période sans réel contact humain, ton seul contact se trouve être les inspecteurs-inspectrices faisant mine de s'intéresser à toi, la tentation de maintenir un dialogue avec eux et elles est grande, ne serait-ce que pour enfin parler à quelqu'un. Si les policiers-policières remarquent que la solitude a un effet sur toi, des stratégies comme la bouée de sauvetage ou humaniser ta relation avec la police seront privilégiées. Intimidation. Attitude hostile, voire agressive et violente des gardiens-gardiennes, chicanerie autour des besoins de première nécessité, nourriture, serviettes hygiéniques, médicaments, blocage administratif de ton courrier, et ainsi de suite. Ce sont là autant de possibilités que possèdent des agentes de police pour instaurer un rapport de force et lancer de menaçantes injonctions à la coopération. Un tel climat de tension est un terrain favorable des stratégies comme bon flic, méchant flic ou la contagion émotionnelle. Dans la majorité des cas, une arrestation est une surprise pour la personne arrêtée. Se faire extraire brusquement de son quotidien pour une période indéfinie crée souvent une grande dose de stress et d'anxiété. Tu auras sûrement des rendez-vous auxquels tu ne pourras pas te rendre, des personnes que tu ne pourras pas avertir et qui vont s'inquiéter, un employeur qui se retrouvera dans l'embarras suite à ton absence, une personne dont tu ne pourras plus prendre soin, et ainsi de suite. Une arrestation est toujours une coupure brutale avec ton quotidien. L'anxiété et la charge mentale produits prennent alors beaucoup d'espace mental et empêchent de se concentrer sur l'interrogatoire et ses dangers. De plus, la possibilité d'être libéré est souvent utilisée comme appât pour te soutirer des informations. Plus le stress et l'inconfort sont grands, et plus cet argument aura du poids. La violence qui réside dans le fait d'être privé de liberté est un facteur non négligeable. Par contre, le danger que représente la détention comme moyen de pression dans l'enquête qui te vise est beaucoup plus élevé. Tu risques de leur donner des informations nécessaires pour te condamner, ce qui peut potentiellement grandement allonger la durée d'emprisonnement. Ma cellule ? Réintégrer votre cellule sonne un peu comme « va ranger ta chambre ». Pourtant, cette cellule n'est pas la mienne. Comment pourrait-elle l'être ? Jamais je ne mettrai de l'énergie à m'approprier un espace destiné à enfermer autrui. Si d'autres conceptualisent, construisent et entretiennent de tels endroits, qu'ils ou elles en gardent la responsabilité. Une cellule, un uniforme ou un numéro de détenu restera toujours la propriété de l'administration carcérale. Cette stratégie du langage est censée me faire approprier et accepter la froide logique pénitentiaire. Dans la même logique, il ne s'agit pas de mon interrogatoire ou de ma peine pénale, mais de l'interrogatoire que je subis et de la peine pénale que l'on m'impose. Je ne fais pas partie du processus de justice institutionnelle, Je le subis et m'en défends. Les outils que j'invente et que je développe avec les gens qui m'entourent pour gérer des conflits et accompagner la souffrance qu'ils engendrent n'ont pas de comparaison possible avec l'autorité qu'exerce l'État.
Chapitre 14. Quelques mots sur la violence.
Attention. Ce chapitre contient des descriptions de pratiques s'apparentant à de la torture physique. Chaque interrogatoire de police contient à minima une forme de violence psychologique. Les techniques de manipulation et de mise sous pression des interrogatoires sur lesquels est basé le travail de la police sont indissociables d'une certaine forme de violence psychique. Dans de nombreux pays, l'usage de la violence physique a été retiré de la liste des moyens de pression légalement utilisables lors d'un interrogatoire de police. Dans d'autres, néanmoins, l'utilisation de cette forme de violence est toujours légale. Après le 11 septembre 2001, la CIA a mandaté deux psychologues afin d'élaborer des techniques d'interrogatoire liant violence psychique et physique. Loin d'être innovant en la matière, ce manuel a néanmoins convaincu pour son côté moderne et a rapidement circulé entre différents services de police à travers le monde. Voici quelques extraits de cette technique. Empoignade. L'interrogateur-interrogatrice empoigne subitement la personne interrogée par le col et la tire vers soi pour créer un effet de surprise, choquer, intimider et ou humilier. Welling. La prévenue est d'abord rapidement tirée vers l'avant, puis propulsée vers l'arrière de manière à ce qu'elle se heurte contre un mur au niveau des omoplates. Gifle au visage. Donné dans l'objectif d'humilier, d'empêcher la personne interrogée de se concentrer, de transmettre une impression d'infériorité au travers de l'entrée agressive dans son espace intime. Immobilisation de la tête. Positionné derrière la personne interrogée, l'inspecteur-inspectrice lui immobilise la tête grâce à la pression de ses mains tout en lui posant des questions. Waterboarding. Simulation de noyade. La personne interrogée est attachée sur le dos, inclinée la tête en bas. De l'eau est versée sur un linge couvrant son nez et sa bouche, ce qui va provoquer une très forte sensation de noyade. Privation de sommeil. La personne interrogée est privée de sommeil pendant plusieurs jours afin de créer un état d'épuisement et de déconcentration. Confinement. La personne interrogée est enfermée dans un espace confiné, limitant sa capacité à se mouvoir. En fonction des phobies de la personne, les psychologues de la CIA conseillent le placement d'insectes dans l'espace. Le temps d'immobilisation va de 2 à 18 heures en fonction du type de confinement. Position douloureuse. La personne interrogée est forcée à rester sur une longue durée dans une position inconfortable. Assise au sol, bras et jambes tendus, à genoux par terre, appuyée contre un mur avec uniquement les doigts qui retiennent le poids du corps, etc. En parallèle, des questions lui sont posées. Faim, température. Utilisation d'éléments comme la faim et la température, la personne est enfermée dans une pièce très chaude ou très froide pour affaiblir la personne interrogée. Nudité. La personne interrogée est forcée à se dénuder dans l'objectif de l'humilier. Pour une liste plus complète, voir la traduction française de ce rapport, Technique d'interrogatoire à l'usage de la CIA, édition des Équateurs, 2009. Cette technique se situe loin du cliché cinématographique de l'inspecteur-inspectrice colérique frappant la suspecte ou du nazi psychopathe accompagné de sa mallette de scalpel. Ici, la violence physique est utilisée comme un élément précis dans la stratégie d'interrogatoire, au même titre que les manipulations verbales présentées plus haut. Son usage vise la même finalité, déstabiliser, affaiblir, épuiser, intimider et briser la résistance de la personne interrogée afin qu'elle aille dans le sens voulu des inspecteurs-inspectrices. Aveu, déclaration, dénonciation, collaboration, Il s'agit de stratégies étudiées, calculées et préparées à l'avance en fonction du profil de la personne. Le fait que les policiers et policières n'aient légalement pas le droit de recourir à de la violence physique ne signifie pas que dans les faits, ils, elles, n'y recourent pas. À côté de l'usage précisément étudié de la violence, cette dernière surgit parfois aussi de manière beaucoup moins subtile. Dans les rares cas où cela est reconnu et thématisé de manière publique, le discours dominant nomme cela une bavure. Ce terme, bavure, est pourtant totalement inadéquat pour décrire le recours à une violence illégale, mais encouragée par une culture de métier et protégée par une justice qui ne la condamne qu'extrêmement rarement. En interrogatoire, cette violence-ci va être beaucoup plus émotionnelle. Des policiers et policières qui tabassent une détenue pour venger une des leurs ou lui faire payer un comportement insolent agissent plus par élan émotionnel que par tactique en vue de résultats concrets pour leur dossier d'enquête. Pourtant, ici aussi l'objectif est d'intimider et de briser les résistances. Violence physique, psychique ou les deux à la fois, l'enjeu du rapport de force d'une seule situation reste similaire. Contraindre la personne interrogée à aller dans le sens propre aux intérêts de la police. J'ai eu un aperçu de l'impact que représente l'usage de la violence physique dans un cadre d'interrogatoire, détention, à travers deux expériences personnelles. Toutefois, je ne me sens ni la légitimité, ni les connaissances pour développer ici des conseils de protection et de résistance face à ces pratiques. Plutôt que de remplir ce vide d'informations hasardeuses, je préfère laisser à d'autres le soin d'écrire ces pages. Pour approfondir un aspect de cette thématique, je renvoie au livre « Coco Fusco, petit manuel de torture à l'usage des femmes soldats », édition Luxe 2010. Kubark, le manuel secret de manipulation mentale et de torture psychologique de la CIA, édition Zone 2012, disponible en libre accès sur le site des éditions Zone. Parole de flic. Dans des situations où des personnes pourraient être en danger, qu'on a absolument besoin d'avoir des informations de la part d'un gars, j'imagine que des techniques qui sont à la limite mais qui restent légales pourraient être utilisées, besoin de nécessité.